VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 3 mai 2016, au sommaire ce soir.
À Bangui, la nouvelle assemblée élue prend aujourd'hui la place du Conseil national de transition.
Cette première séance consiste à installer les députés. Cela veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui que tous ceux qui ont été élus sont députés de la nation.
Vers un référendum constitutionnel en Mauritanie, le président Ould Abdelaziz a annoncé le scrutin pour éliminer le Sénat. Aucune date n'a été précisée.
Présidentielle américaine, la primaire dans l'Indiana aujourd'hui pourrait garantir à Donald Trump la position de candidat naturel du Parti républicain.
Et à l'occasion de la Journée internationale de la presse, nous parlerons de l'accès à l'information et aux libertés fondamentales.
Nos pages sport et économie suivront juste après le journal. Le Conseil constitutionnel proclamera ce soir au Tchad les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 10 avril. Le Conseil a d'ores et déjà rejeté la requête de l'opposition demandant l'annulation de cette élection. On en reparlera dans nos prochaines éditions.
En Centrafrique, la nouvelle Assemblée nationale a officiellement pris fonction ce mardi. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple à Bangui. Au total, 128 députés étaient convoqués pour cette première session extraordinaire du nouveau Parlement qui s'étendra au 17 mai. Le point avec Freeman Sipila.
L'ambiance était à son comble ce mardi au siège du Parlement situé dans le premier arrondissement de Bangui. Les nouveaux élus ont été ovationnés par leurs proches et électeurs à la sortie de l'hémicycle. Des chants, des acclamations, mais aussi des spectacles parfois encombrants. La séance a été présidée par le député de Satima, René Constant Boudo, 73 ans, doyen d'âge.
Cette première séance consiste à installer les députés. Cela veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui que tous ceux qui ont été élus sont députés de la nation. Et cela implique tous les avantages dont ils ont droit, le rôle qu'ils auront à jouer.
Le top est désormais donné. Reste maintenant à constituer le bureau de la nouvelle Assemblée nationale. C'est la date du 6 mai prochain qui est donc retenue. Cette première session extraordinaire du nouveau Parlement centrafricain, ouverte ce mardi, prendra fin le 17 mai prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, en déplacement dans le sud-est de son pays, a annoncé ce mardi un référendum constitutionnel, sans préciser de date. Bagassi Koura.
Ce référendum va porter sur la suppression du Sénat, une institution qui alourdit, selon lui, le processus d'adoption des lois en Mauritanie. Le président Aziz a fait cette annonce dans un discours lors d'un meeting devant des milliers de personnes à Nema, dans le sud-est du pays. Il reproche au Sénat, la chambre haute du Parlement, formée de 58 membres et dominée par la majorité présidentielle, d'alourdir le processus d'adoption des lois en Mauritanie en allongeant la durée des procédures. Il suggère de créer à la place du Sénat des conseils régionaux dont les membres élus seront constitués de ressortissants des régions pour veiller à leur développement économique et social sans plus de détails. Les dernières élections sénatoriales organisées en Mauritanie remontent à 2010.
Le vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo, a accusé le précédent gouvernement d'avoir détourné 15 milliards de dollars de fonds publics via des contrats d'armement frauduleux. Cette somme, qui représente plus de la moitié des réserves en devises étrangères du pays, s'est évaporée à cause de pratiques frauduleuses et corrompues dans des dépenses consacrées à des équipements de sécurité, a-t-il précisé.
Fin cet après-midi de la visite des ministres français et allemands des affaires étrangères dans la sous-région ouest-africaine. Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier étaient au Mali et au Niger pour discuter avec les autorités de ces deux pays de développement, de sécurité et de migration.
À Nairobi, au Kenya, un bébé de 7 mois a été retiré vivant ce mardi des décombres, 4 jours après l'effondrement d'un immeuble qui a causé la mort de 23 personnes. La petite fille a passé près de 80 heures dans une bassine enveloppée d'une couverture et était déshydratée, mais en bonne santé. Selon les médecins, au moins 100 personnes, dont la mère du nourrisson, sont toujours portées disparues. Selon un dernier bilan, 30 personnes ont péri à Nairobi depuis vendredi à cause des pluies torrentielles.
Le président Paul Biya entame ce mardi une visite d'État de 2 jours au Nigeria, où il sera accueilli par son homologue Muhammadu Buhari. Le point avec Nani Talani.
D'après le communiqué de la présidence nigériane, les deux leaders aborderont les questions d'intérêt commun, notamment ceux relatifs à la coopération bilatérale et régionale concernant le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Le Cameroun et son géant voisin nigérian, qui partagent une frontière maritime et terrestre longue de plus de 2000 km, affrontent un mal commun, Boko Haram. Attaqué de toutes parts, le mouvement djihadiste garde une capacité de nuisance et multiplie les attentats suicides, notamment au Cameroun et au Nigeria. Paul Biya et Muhammadou Bouhari devraient aussi signer des accords visant à renforcer la coopération économique entre leurs deux pays. Première économie d'Afrique, le Nigeria est aussi un partenaire commercial important pour le Cameroun, avec plus de 4 000 milliards de francs CFA d'échanges en moyenne chaque année, d'après les chiffres de la Banque mondiale. Malheureusement, ces échanges sont en baisse depuis le début de la guerre contre Boko Haram. Sur le plan humain, au moins 1 million de Camerounais vivent au Nigeria, contre près de 3 millions de Nigérians en terre camerounaise.
Kinshasa, quasiment recouverte de banderoles en hommage à l'idole de la musique congolaise Papa Wemba, mort sur scène le 24 avril à Abidjan. Des responsables politiques et autres célébrités ont continué ce mardi à lui rendre un dernier hommage, tandis que plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées devant le bâtiment. Il doit être enterré mercredi dans un cimetière de l'est de Kinshasa. Dans notre deuxième partie, vous pourrez suivre un reportage.
Autre deuil dans la musique africaine, le chef d'orchestre du groupe ivoirien Magic System, Didier Bonaventure d'Ignazi Pepito, est décédé par noyade. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le groupe, une semaine après la mort de Papa Wemba, sur scène à Abidjan, au FEMUA, organisé par Magic System.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Guerre en Syrie, les combats se poursuivent dans la Ghouta orientale, dans la province de Damas, entre factions islamistes rivales. Bilan, plusieurs dizaines de morts, dont au moins 10 civils, selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cité par l'AFP. Le groupe Faylak al-Rahman, soutenu par le Front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, affronte le puissant mouvement de Jaïch al-Islam pour le contrôle de la région. Un membre de Jaïch al-Islam dirige la délégation rebelle aux négociations de paix intersyriennes à Genève.
Par ailleurs, 19 civils ont été tués dans une série de raids aériens sur Raqqa. Raqqa, c'est le fief du groupe djihadiste État islamique. Selon un nouveau bilan établi par l'OSDH, c'est la première attaque de cette envergure dans la zone de Raqqa depuis plusieurs semaines, a précisé le directeur de l'ONG syrienne, Rami Abdelrahman.
En Irak, une vaste opération militaire en cours contre le groupe État islamique dans le nord du pays pourrait provoquer le déplacement de 30 000 civils dans les prochaines semaines, a averti aujourd'hui le HCR. Les forces fédérales irakiennes, les Peshmerga kurdes soutenues par la coalition internationale dirigée par les États-Unis, mènent depuis mars une offensive contre Daesh dans la province de Ninive, dont le chef-lieu Mossoul est le bastion des djihadistes en Irak.
Un soldat américain a été tué aujourd'hui au nord de Mossoul lors d'une attaque du groupe État islamique, a annoncé le Pentagone. Et primaire cruciale dans l'Indiana pour les favoris Donald Trump et Hillary Clinton, elle pourrait aussi se révéler déterminante pour leurs derniers rivaux Ted Cruz et Bernie Sanders. Idrissa Seloudia.
Une victoire de Trump aujourd'hui dans l'Indiana pourrait sceller le sort de M. Cruz, bien avant même la Convention nationale républicaine qui doit investir en juillet à Cleveland le candidat du parti. L'objectif de M. Cruz est d'empêcher Trump d'avoir les 1237 délégués requis pour passer au premier tour et de l'emporter lui-même par la suite. 57 délégués républicains sont en jeu dans l'Indiana, soit le plus grand lot avant la Californie le 7 juin. Les sondages donnent l'avantage à Trump, qui n'a pas hésité à dire « Si on gagne dans l'Indiana, c'est fini », ajoutant « Et après, on pourra se concentrer sur Hillary, la malhonnête ». La démocrate Hillary Clinton, de son côté, bat campagne dans l'Indiana, où la lutte est serrée entre elle et son rival Bernie Sanders. Mais elle a déjà commencé à axer ses attaques sur Donald Trump, comme si elle avait déjà éliminé de la course M. Sanders. Ce dernier ne s'avoue pas vaincu et compte poursuivre sa campagne jusqu'à la Convention nationale démocrate en juillet à Philadelphie.
En Israël, un tribunal de Jérusalem a condamné à la prison à vie le principal accusé israélien dans le meurtre d'un Palestinien brûlé il y a 22 mois. La victime était un adolescent de 16 ans, Mohamed Abou Gder. Le crime commis par Yosef Haïm Ben David le 2 juillet 2014 avait contribué à l'escalade de la violence menant à la guerre de Gaza. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est avec Eric Manirakiza.
Une étude du Fonds monétaire international publiée aujourd'hui mardi révèle la plus faible croissance en 2015 en Afrique subsaharienne, jamais connue depuis 15 ans. La chute des cours des matières premières, de la sécheresse sont à l'origine de cette crise. Les meilleures économies du continent sont les plus touchées, dont le Nigeria et l'Angola, tout comme le Ghana, l'Afrique du Sud et la Zambie. Mais certains pays ont fait la différence. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Kenya ou du Sénégal, qualifiés de bons élèves par le FMI. Ils ont enregistré des taux de croissance dépassant 5%. Mais malgré les défis, le FMI a affirmé que les prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne demeurent bonnes à moyen terme grâce à un meilleur environnement pour les affaires et une population jeune. La BGFI Bank, premier groupe bancaire d'Afrique centrale, a enregistré un résultat net consolidé de 30 milliards de francs CFA, estimé à plus de 45 millions de dollars pour l'année 2015. Détenu à près de 46% par des investisseurs privés, les actionnaires auront 5 milliards de francs CFA de dividendes. Le conglomérat industriel gabonais Compagnie du Como détient des parts importantes, soit 31% du capital. Enfin, Dangote Cement, le groupe nigérien de ciment, vise à atteindre une production annuelle de 77 millions de tonnes d'ici la fin 2019, mais aussi totaliser 100 millions de tonnes en 2020. Dangote a en effet multiplié de nouvelles cimenteries au Nigeria et sa production notamment en Afrique de l'Ouest.
Place au sport tout de suite avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Champions League en Europe, demi-finale retour dès ce soir.
Le Bayern Munich contre l'Atlético Madrid, 1-0 à l'aller pour les Espagnols. Et le coach du Bayern, Pep Guardiola, qui joue sa dernière chance de vivre une finale de la Ligue des Champions avec le Bayern et maintenir le rêve du triplé avant de filer à l'anglaise. Deux fois de suite, les compatriotes de Guardiola lui ont écourté son printemps. Victime coup sur coup du Real de Madrid de Ronaldo, c'était en 2014, et du FC Barcelone de Lionel Messi, c'était en 2015, à chaque fois en demi-finale et à chaque fois défaite des Allemands. Pas question donc pour le Catalan de revivre un tel cauchemar face au troisième larron de la Liga, l'Atlético Madrid, vainqueur 1-0 à l'aller à Vicente Calderón.
Le dernier match de demi-finale, c'est demain.
Elle opposera le Real Madrid avec un Cristiano Ronaldo de retour à Manchester City avec Yaya Touré également de retour. Cristiano Ronaldo, s'il se présente sur la pelouse, aura l'occasion d'égaler voire de battre son record de 17 buts marqués dans une édition de la Ligue des Champions. L'international portugais domine le classement des buteurs de l'épreuve, Rennes avec 16 réalisations cette saison et 94 au total.
Dopage, l'AMA suspend l'accréditation du laboratoire sud-africain de Bloemfontein.
L'Agence mondiale antidopage a suspendu pour 5 mois l'accréditation du laboratoire national antidopage sud-africain parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de qualité pour l'analyse des contrôles. Au cours de cette suspension prononcée jusqu'au 30 septembre, les échantillons doivent être acheminés avec toutes les règles de sécurité vers un laboratoire dûment accrédité par l'Agence mondiale antidopage.
Et la flamme olympique des Jeux de Rio est arrivée au Brésil, Nicolas.
Oui, la flamme olympique est arrivée en avion à Brasilia ce matin en provenance de Genève. Première étape d'un parcours dans tout le Brésil jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Ce sera début août. Cette flamme doit allumer la torche olympique au palais de la présidence en présence de la chef de l'État Dilma Rousseff.
Enfin, parlons basket professionnel, résultat de la NBA.
Les demi-finales de conférence à l'Est, Cleveland a battu Atlanta 104-93. Cleveland mène la série 1-0. Et de l'autre côté, à l'Ouest, San Antonio et Oklahoma City sont à égalité 1 partout. Après la victoire d'Oklahoma City, 98-87 sur le parquet de San Antonio.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Première escale ce soir, la République démocratique du Congo, après les officiels hier lundi. Les fans et sympathisants de Papa Wemba lui ont rendu hommage ce mardi à Kinshasa. Sous les averses, des milliers de personnes se sont inclinées devant la dépouille de l'artiste qu'ils ont adulé pendant plus de 4 décennies. Un reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Bruxelles, référence à Sagui Charoufa.
Des longues files d'attente ont été aperçues pour rendre les derniers hommages à Papa Wemba. Des sapeurs ont exhibé leur collection d'habits. Une forte délégation de sapeurs venue de Brazzaville a honoré les rois de la rumba congolaise. Pour Maxime Pivot Mabanza, Papa Wemba était le Moïse de la SAP.
Ce que je veux retenir de Papa Wemba, moi, en tant que Maxime Pivot, ambassadeur de sapeurs congolais, je l'appelais le Moïse de la SAP. Parce que c'est lui qui a pérennisé la SAP ici en RDC.
Des femmes de la SAP n'ont pas voulu manquer cette occasion. Fais la référence, dit accompagner les hommes parce que c'est la même qu'ils tuent.
On a accompagné les hommes à Kinshasa parce que, bon, ça c'est notre culture, quoi. La sapologie c'est la culture. Habiller bien, être bien parmi les hommes, donc c'est ça. Je sais que la SAP c'est la SAP. Le 8 mars c'est journée de la femme. Papa Wemba était avec nous. Aujourd'hui là ça fait seulement 1 mois et 2 semaines que Papa est parti. Donc nous sommes obligés de venir ici là. Les femmes comme les hommes. Nous, on ne porte jamais les vestes des femmes, c'est seulement les vestes des hommes. Si tu portes les vestes des femmes là, tu sors comme un homme, ça te va.
Gaston Kadima, un peintre de la RDC, a attendu pendant plusieurs heures pour s'incliner devant la dépouille du défunt.
J'ai vu ça à la télévision d'abord avec un ami ivoirien et il avait peint sa maman et c'était vraiment fantastique. Je n'y croyais même pas.
Et vous avez eu quand même à palper l'œuvre qu'il avait réalisée?
Oui, c'est en 1975 que j'avais palpé l'œuvre. C'était à Molokai. Je ne m'attendais pas à ça. À ce moment-là, il pressait à Yokalokole. C'est là où nous sommes avec Papa. Il est puis un homme complet, artiste et peintre, musicien, cinéaste, entraîneur de l'équipe de Juventus. Donc il était tout. Et musicien aussi. Et sa père. Vous comprenez ce qu'il fait, Papa Wemba? Alors nous avons perdu un baobab. C'est le seul musicien qui est honoré comme un héros national.
Des hommages vont se poursuivre jusqu'à l'enterrement de l'ancien patron des Viva la Musica ce mercredi. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Rappelons que l'enterrement de Papa Wemba, décédé en plein concert à Abidjan en Côte d'Ivoire, aura lieu ce mercredi à Kinshasa.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM. 41 ans après la naissance de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les échanges entre les pays de cette sous-région s'élèvent à seulement 12%. Pourquoi un chiffre aussi faible alors que cet organisme devrait renforcer l'intégration régionale? Mélie Segal a joint l'économiste Ablassé Ouédraogo à Ouagadougou, qui est président du parti Le Faso Autrement.
Comme nous le savons tous, la CEDEAO est quand même un vaste marché de plus de 300 millions. Lui au moins, c'est un marché de 105 millions de consommateurs. Mais quand on regarde effectivement la situation des échanges à l'intérieur des deux zones, c'est très très faible. Pour la CEDEAO, c'est 12% à l'intérieur donc des 15 pays membres. Pour lui au moins, c'est 15% à l'intérieur donc des 8 pays membres. Qu'est-ce qui justifie cette faiblesse? Avant tout, à cause du manque d'infrastructures routières. Et comme vous le savez, pour que la population puisse consommer, il faut déplacer les biens et les marchandises de leur lieu de production à leur lieu de consommation. Malheureusement, et malgré tous les efforts qui sont faits pour la promotion de l'intégration régionale, de l'intégration des peuples, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est encore très mal équipée au plan des routes, au plan des infrastructures de production et de transport, si bien que cela pénalise notamment les échanges interpays. En plus de cela, il y a les barrières commerciales aux règles de l'OMC. Et malheureusement, vous ne pouvez pas empêcher les pays de faire donc leur politique commerciale en tenant compte de leurs intérêts et en tenant compte de leur capacité de production. Et ce sont ces deux facteurs-là qui plombent le volume des échanges au niveau interpays en Afrique de l'Ouest.
Et donc, comment faire pour promouvoir ce commerce entre ces pays ?
Non, je pense qu'il faut poursuivre avec persévérance la politique d'intégration régionale, que chaque pays regarde comment elle a comme capacité de production là où elle est la mieux outillée, et en se répartissant donc les rôles et avec une infrastructure routière qui permet une circulation fluide des biens, des personnes et des produits, je pense qu'on peut rattraper donc ce handicap.
C'était l'économiste et ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé Ablassé Ouédraogo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. C'est le thème de la Journée internationale de la presse ce mardi. En Afrique, de nombreuses femmes sont appelées à exercer comme journalistes. Ceci dans un contexte où elles doivent continuer de remplir leurs fonctions d'épouse ou de mère. Marion Obam-Mael est la présidente du Conseil Genre de la Fédération africaine des journalistes. Jointe par John Lendon, elle évoque ici l'importance du thème choisi et parle notamment des problèmes que connaissent les femmes journalistes en Afrique.
C'est un thème qui est vraiment approprié dans les circonstances d'exercice du journalisme au Cameroun et surtout pour les femmes aussi, puisque comme je m'occupe du Conseil Genre, accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Ça veut effectivement dire qu'aujourd'hui, les femmes peuvent exercer leurs fonctions, elles ont les droits, et ces droits-là sont de plus en plus reconnus pour permettre qu'elles s'épanouissent et qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions. Et également, dans ces droits et libertés-là, il y a des droits humains qui sont très importants pour que chaque travailleur, au-delà d'être journaliste, se sente à l'aise.
Alors, vous l'avez dit, vous êtes présidente du Conseil Genre de la Fédération africaine des journalistes. En quoi consiste votre rôle à ce titre?
Mon rôle dans cet organisme africain, qui regroupe en son sein 49 pays africains, c'est de recenser les problèmes des femmes dans l'exercice de leurs fonctions, les problèmes de genre. Parce que l'exercice de la profession de journaliste n'est pas la même que ce soit en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, avec les pays islamisés. Donc toutes ces difficultés sont spécifiques à la zone à laquelle on appartient. Donc il faut d'abord recenser tous ces problèmes-là. Ensuite, après les avoir adressés, voir quelles sont les solutions. Et maintenant, le troisième axe, c'est de faire la formation. Parce qu'au-delà d'être journaliste, au-delà d'être travailleur, au-delà d'être femme, nous devons contribuer à l'économie des médias dans chacun de nos pays respectifs. Donc la charge est lourde, mais le challenge est exaltant et on espère qu'on va pouvoir intéresser les femmes à ces trois axes-là.
Vous êtes journaliste, certes, mais vous êtes également... Vous militez également dans le Syndicat national des journalistes du Cameroun. Comment vous réussissez à jumeler les deux?
C'est une équation assez difficile, mais je pense que j'ai pu la réussir d'abord parce que j'ai un époux qui est dans la profession et qui comprend que je peux être absente des jours ou des semaines ou je peux être amenée à aller dans d'autres pays, dans d'autres villes pour défendre les droits des travailleurs. C'est d'abord très important d'avoir quelqu'un avec qui on vit qui comprend les difficultés liées au métier qu'on exerce. La deuxième chose, c'est la passion, c'est-à-dire j'aime tellement ce que je fais et je m'implique en cela et que je m'adonne totalement et entièrement. Et en plus, il faut pouvoir laisser une trace, il faut pouvoir dire aux jeunes aujourd'hui que tout n'est pas dans la facilité, tout n'est pas dans ce qui se dit, mais que le travail paye et qu'ils peuvent, nous pouvons être des référents pour cette jeunesse africaine qui veut gagner, qui veut être positive.
On écoutait Marion Obam-Mael, présidente du Conseil Genre de la Fédération africaine des journalistes.
Cette semaine, dans Washington Forum, la liberté de la presse en déclin. Journalistes muselés, agressés, parfois même assassinés, la censure se porte bien. Entre gouvernement répressif et militants extrémistes, les journalistes sont-ils en mesure d'informer en Afrique francophone ? La neutralité est-elle possible dans un contexte de crise politique ? Vos questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous jeudi à 19h temps universel avec Morgan Liriek et ses invités. Vol d'armes au Mali. La suspension du chef d'état-major de la garde nationale a été levée. L'enquête se poursuit avec 5 autres militaires arrêtés. Les enquêteurs révèlent que c'est un véritable trafic d'armes au sein de l'armée malienne, plus précisément dans certains camps militaires de Bamako. Les Bamakois se disent inquiets et estiment qu'une enquête sérieuse doit être menée afin de situer les responsabilités. Voici un reportage de Kassim Traoré.
C'est par la garde nationale du Mali que ces vols d'armes avaient commencé, avant les camps de génie militaire et le commissariat des armées. Aujourd'hui, la police militaire et l'inspection générale des armées qui s'occupent de l'enquête n'ont pas assez d'éléments, d'où l'inquiétude des Bamakois.
Vraiment, il est inconcevable qu'il y ait des vols d'armes dans nos garnisons. D'autant plus que nos militaires se plaignent, tout le monde se plaint comme quoi nos militaires n'ont pas d'armes. Ils manquent d'équipement, ils manquent de tout.
Nous sommes pauvres et nous vivons dans un pays pauvre. Pour nous, le vol d'armes ne doit pas être une mince affaire. Comment à Bamako, on peut voler des armes dans un camp militaire? On pouvait comprendre si c'était un seul camp. Et jusqu'à ce jour, l'État ne dit rien par rapport à ces vols d'armes. Ça sent de l'impunité et de laisser aller au sein de l'armée. Nous exigeons des enquêtes plus sérieuses.
C'est la hiérarchie militaire qui a levé la suspension du chef d'état-major de la garde nationale. L'intéressé a même repris service. À part lui, aucun chef militaire n'a été interpellé, alors qu'une cinquantaine d'armes ont disparu.
Si ces armes circulent, ça ne circule pas forcément dans la main des animaux, mais c'est dans la main des personnes, des gens comme nous, comme vous, des civils. Bon, ils peuvent utiliser à leur fin. Bon, donc nous ne sommes pas finalement sécurisés. Si vraiment les armes sont disparues, vraiment on n'est pas finalement sécurisés. C'est là où je m'inquiète beaucoup là-dedans. Quoi. Que restons vigilants de tout acte que nous posons. Quoi.
Certains Maliens disent que ces armes volées ont été vendues aux ex-rebelles qui s'apprêtent à aller vers leur cantonnement. Car cela ne tienne, les militaires maliens ne doivent pas vendre leurs armes.
Vraiment, ce vol d'armes que nous avons appris inquiète. Nous inquiète vraiment parce que vu la situation actuelle que le pays est en crise, si on attend encore que les porteurs volent leurs propres armes, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. En réalité, c'est inquiétant pour le pays. Il faut que l'autorité essaie de revoir vraiment leur façon de recruter et il ne faut pas amener n'importe qui dans l'armée.
Les enquêteurs, à défaut d'avoir des résultats, compte sur la période de cantonnement afin de voir la provenance de toutes les armes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui assure la mise en onde ce soir avec l'assistance technique de Wagner Robert à la console. Présentation Nathalie Barge et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La conversation continue sur Facebook où vous pouvez partager ce qui fait l'actualité chez vous ou ce que vous pensez de nos émissions. Posez aussi des questions pour nos programmes interactifs et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.